Merci Alex et Cédric de m'avoir accompagné sur cette émission. Je vous remercie, vous, les auditeurs de Génération Sport. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec... On aura une actualité Ligue des Champions, puisque dans deux jours, c'est le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions. Donc, on aura le temps...
Et la liste de Deschamps aussi.
La liste de Deschamps. On aura le temps de débattre de tout ça. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la semaine prochaine.
Falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, va enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était trop tard et pourtant j'ai tenu.
Est-ce qu'on les entend, nos deux invités du bout ?
Je sais pas. Allô, allô, 1, 2, 1, 2.
Allô,
ouais,
allô.
Bon, allô. Parle plus fort.
Allô ?
Ouais, c'est bien. Donc, on vient d'entendre la voix de Lobac, nos spécialistes du livre dont vous êtes le héros, Angevin, qui vient représenter la Taverne des Aventuriers.
Oui.
Et puis, on accueille aussi Benoît. Benoît Patrice, qui vient nous parler de son premier roman, je crois.
Tout premier roman, exact.
Ouais, Hôtel Silencio, qui est un livre interactif.
C'est cela.
Donc, une émission ce soir sur le 101.5 consacrée un petit peu au livre-jeu. Mais on aura aussi une chronique de Bess,
oui.
Une deuxième chronique film d'horreur.
Ouais, ça va saigner.
D'accord. Et puis en fin d'émission, on aura une chronique de Jean-Hugues qui nous a enregistré à propos d'une série qui, je sais pas, ce qui passe sur Netflix, Warrior Nuns, quelque chose comme ça.
Ah,
je sais pas,
voulais ça la regarder, celle-là.
Ah bah voilà.
C'est très drôle.
C'est vrai. Bon, on pourra en parler tout à l'heure. Et dans cette émission aussi, le grand retour du Tyrannosaurus Imperium qu'on n'avait pas entendu sur les ondes de Radio G depuis super longtemps. Et bah, écoutez, c'est super intéressant.
Bonjour, chers fondus. Je sais, je vous ai cruellement manqué, mais que voulez-vous ? Je me livrais à des activités passionnantes. Et quand je suis revenu, j'ai constaté qu'il était impossible de laisser les humains un semestre tout seuls sans qu'ils ne s'ingénient à l'extermination. Nous, les dinosaures, avons été exterminés, mais c'était par un météore facétieux. Nous n'y étions pour rien. Alors que vous, les humains, vous vous exterminez tout seuls, eh bien... Félicitations. Non, je ne parle pas de la petite bête qui sévit actuellement et qui ne détruira que 2 ou 3 millions d'incompétents au système immunitaire déficient, non. Je parle de vos petits-enfants qui bientôt vont planter des bananes et des ananas dans leur jardin, pour les plus nantis d'entre eux. Bon, rassurez-vous, une frange de la population survivra au changement climatique. C'est de la même qui vous assassine à petit feu aujourd'hui. Oups. Bon, j'avais promis que je ne le ferais plus. Le bien-aimé trésorier d'imaginaire trouvait que mes chroniques ressemblaient à des manifestes de Black Bloc et me faisait des gros yeux. J'aurais bien pu le bouffer d'un claquement de dents, vous allez me dire, mais il est vraiment, vraiment trop maigre. Le sujet du jour est lié au livre dont vous êtes le héros. Et j'ai une légende à vous conter sur le sujet dont le héros n'est autre, vous le connaissez tous, Jacques Pinboin. Mais si, le monsieur qui a fait des maquettes de tout ce qui est quadri a imaginé à la couverture de l'anthologie, les affiches, les flyers, non ? Il est aussi l'un des créateurs de la revue de jeux de rôle, InfoJeux Magazine, premier magazine de jeux de rôle à distribuer en kiosque. Non, toujours pas. C'est l'un des créateurs de la mythique boutique de jeux Phénomène J au Quartier Latin. Non ? Ah, je suis fou. Je sais, c'est l'un des deux barmen de la convention imaginaire. Ah bah voilà, vous le reconnaissez tous. Ce héros mythique du jeu a vécu de nombreuses aventures en essayant sans succès, mais de peu, de récupérer les droits de jeu pour la France comme Donjons Dragon ou Magic. Bon, je vous raconterai tout ça si vous êtes sage. Faut dire que ces aventures lui ont quand même permis de discuter, voire de rencontrer les grosses têtes de TSR ou de Wizard of the Coast. Mais parlons Games Workshop. Steve Jackson et Ian Livingstone, deux étudiants hurluberlus, tombent au début des années 70 sur l'un des responsables de TSR et découvrent, pas la même, Donjons et Dragons. Ils tombent complètement accros du jeu et décident d'en vendre en Angleterre et en quelques jours vendent tout leur stock, c'est-à-dire presque une demi-douzaine. C'était l'époque de la petite boîte blanche. Et Donjons et Dragons a associé encore le wargame de figurines et le jeu de rôle. En 1975, ils montent à Nottingham leur première boutique, Games Workshop, soutenue par leur fanzine qui entre-temps est devenue magazine après un habile changement de nom et qui se nomme désormais White Dwarf. À l'époque, le magazine est quasiment intégralement dédié à Donjons et Dragons. Alors ils vont développer plus tard leur propre monde, celui de Warhammer Jeux de Rôle, ainsi que le célèbre jeu de figurines homonyme, dont les premières pièces fondues en France le seront par les ateliers du cousin germain de l'ancien président bedonnant imaginaire, Jean-Yves Villacampa. Comme quoi, le monde est petit. Bon. Ian Livingstone et Steve Jackson s'interrogent. Que peut faire un joueur de jeu de rôle confiné chez lui ? Non, confiné, c'est pas à chaque fois coronavirus. On peut être confiné parce qu'on s'est cassé une jambe, par exemple. Ou parce que c'est dimanche et qu'il flotte. Enfin bref. Je rappelle aux iconoclastes qu'à l'époque, l'informatique, ça servait tout juste à calculer comment polluer l'espace en y envoyant des fusées, des satellites, des humains ridiculement habillés. Et il trouve, c'est le concept du livre dont vous êtes le héros, qui naît. La collection s'appelle Sorcerie, le premier volume coécrit par les deux Lascar n'est autre que le célébrissime Le Sorcier de la Montagne de Feu. En 1983, Jacques Pinboin et l'un de ses associés se rendent à Nottingham à un rendez-vous avec les deux héros. L'échange téléphonique s'est super bien passé, mais il faut dire qu'à l'époque, une conversation aux joueurs, ça frisait le rendez-vous de franc-maçon. Nous étions entre nous. Nos deux héros débarquent donc à Nottingham vers 10h et sont accueillis par une charmante secrétaire. Sorry, ils ne sont pas encore revenus de leur partie de golf, mais je crois qu'ils arrivent. Et effectivement, une très jolie Porsche se gare devant les locaux, hérissé de clubs de golf. La rencontre entre les quatre joueurs est cordiale et chaleureuse. J'imagine en mode « Et moi, mon voleur a réussi à chourer à son sorcier son anneau d'invisibilité » ou « J'ai buté avec mon paladin un démon type 3 d'un seul coup de ma Harley Hunter », etc., etc. La visite de leurs ateliers est éminemment instructive, entre autres les plans déployés d'un livre dont vous êtes le héros sur un mur immense. Et oui, rappelez-vous l'informatique. Nos compères passent une très bonne journée, mais les droits pour éditer en France ces merveilles dépassent leurs moyens. Et c'est finalement Gallimard qui récupérera la licence pour sa collection Folio Junior. Le succès en France est immédiat. Même les instituteurs sont stupéfaits puisque leurs plus revêches à la lecture, qui ne lisaient même pas de la bande dessinée, se mettent au livre dont vous êtes le héros. Les prémices de l'informatique telle que vous les connaissez va briser un petit peu l'élan, mais il existe toujours des fans incontournables de ces ouvrages. Et tiens, j'en profite pour faire un petit coucou à Sébastien Juliet qui en est un de fan. Quelques maisons d'édition françaises se sont essayées à l'exercice, certaines avec un beau succès. Quelques auteurs et joueurs de jeux de rôle s'y sont mis aussi. Pierre Rosenthal, Jean-Luc Bizien et d'autres. Et Gallimard Jeunesse annonce avoir vendu près de 15 millions de ses livres-jeux qui seront déclinés à l'envi. Il en a été vendu des centaines à la bouquinerie Phénomène J sur Angers, qui était le spot LDVEH, livre dont vous êtes le héros, en Angers. Donc si vous n'en avez jamais lu, jamais essayé, n'hésitez pas, faites-le. Ou je vous bouffe.
Dans l'imaginaire sur le 101.5, un choix de Lowback, notre invité. Est-ce que tu veux justifier un peu ce choix ?
Bah, tout simplement parce qu'on l'entend très peu à la radio et je trouve que c'est un artiste qui mérite vraiment une bonne écoute. Il a fait énormément de disques et pour moi, ça reste quand même un chanteur majeur de la chanson française. Voilà.
Et parolier aussi, hein, je crois qu'il écrit.
Oui, parolier. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah, il écrit ses textes et tout. Il y a énormément de poésie. Et puis, je pense que ça restera comme un monument, vraiment. Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Alors, Laubac, tu nous viens de la Taverne des Aventuriers. Donc, un site internet où se retrouvent en fait les fans de livres dont vous êtes le héros.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un forum, en fait, où. Voilà, il y a tous les âges quand même de représenter. Ce que il m'arrivait de parler à des. On a eu des jeunes, très jeunes, de 12, 14 ans, qui découvraient vraiment les livres-jeux. Et bon, il y a les anciens comme moi et les autres, entre 30 et 40 ans. Et je trouve que c'est bien de voir que c'est une littérature qui perdure vraiment et qui continue dans le temps. Et on voit qu'aujourd'hui, bah, justement, il y a de nouvelles sorties, de nouvelles maisons d'édition. Et il y a toujours un public nouveau qui se renouvelle sur la taverne. Et c'est vraiment appréciable.
Et alors, la taverne, c'est une source d'information. Moi, j'ai été un peu pour regarder des solus, des fois.
Oui, oui. Ah.
C'est aussi. Parce qu'il y a quand même, on en discutait, certains livres dont vous êtes le héros qui sont complètement infaisables.
Bah, disons que, au début, dans les années 80, les auteurs faisaient pas trop attention à la jouabilité. Donc ça rendait les livres excessivement difficiles et du coup pratiquement on pouvait pas les jouer à la loyale, on devait tricher. Donc on apprenait à tricher pour arriver au bout en fait des livres. Mais maintenant il y a un effort de fait pour justement les jouer, mais vraiment à la loyale, ne pas tricher. Il y a même des anti-triches, hein, y a des auteurs qui s'amusent avec ça.
Qu'est-ce que c'est une anti-triche, hein?
Bah, c'est-à-dire que si tu triches, à un moment donné t'es tenté d'aller à un paragraphe, l'auteur te dit non. Parce qu'il faut, en fin de compte, il y a des codes et il faut vraiment avoir le bon code pour aller au bon paragraphe.
Ouais, ok. Donc on est presque déjà dans l'escape book, hein, qui est un peu.
Oui, qui s'amuse à ça, ouais.
La version moderne, peut-être, du livre dont vous êtes le héros. Je crois que tu en as amené un d'ailleurs.
Oui, parce que c'est. C'est un livre qui me tient à cœur, parce qu'il a été écrit par un ami, Gauthier Wendling.
Que tu as rencontré sur la taverne.
Alors sur la taverne, parce que c'est un forum vraiment où voilà, on s'entend bien, on discute beaucoup quand même. Et puis il m'est venu l'idée de l'inviter à Imaginaire, et il est venu, il est auteur aux éditions 404. Il a énormément apprécié, comme tu sais, donc le salon. Il est reparti avec beaucoup de livres d'ailleurs. Et donc j'ai eu l'occasion de le voir et on a sympathisé. Et il m'a donc dédicacé certains de ses livres. Bon, pas celui-ci, malheureusement, j'ai pas eu encore eu le temps.
C'est plus récent,
et en fait, si tu veux, ce livre, Hôtel Mortel, je l'ai fait pendant le confinement. Et en fait, c'est un livre dans lequel t'es confiné. Donc tu dois te sortir d'un hôtel.
Ah, un escape book, ouais.
Et mais en même temps, tu dois. En fait, c'est vraiment. Ça retrace aussi tout premier serial killer.
Ah ouais,
aux États-Unis, dans le Chicago de 1893, où il tient un hôtel, où il enferme ses victimes et il les tue, et on doit se sortir de cet hôtel. Et moi qui étais vraiment en confinement, quelque part ça me faisait du bien, parce que j'avais vraiment envie de m'en sortir, de sortir de ce confinement. Et tu vois, ça m'a vraiment plu, vraiment, d'arriver au bout du défi de sortir de l'hôtel.
C'est basé sur des faits historiques avérés ?
Oui, ouais, des faits historiques avérés. Donc d'accord. Il y a vraiment une documentation précise et en même temps il y a tout l'aspect ludique. Et c'est ce que j'aime dans cette littérature, c'est qu'on en vient aujourd'hui à avoir des livres très très documentés qui peuvent reprendre l'histoire, bah, comme les histoires à jouer aussi. Et en même temps il y a un côté ludique aussi affirmé, et en même temps t'apprends des choses et tu t'amuses en même temps.
Donc c'est Hôtel Mortel de Gauthier, ouais. Wendling, dans la collection Escape Book des, voilà, éditions 404. C'est un peu eux, en France, je dirais qu'on le monopole un peu de l'escape book.
Oui, ouais, c'est eux vraiment qui ont le plus vendu de livres dans ce type de.
Il doit y en avoir une quinzaine maintenant, je pense, de sorties dans leur collection. Et là, du coup, vraiment dans des univers très variés, quoi.
De tous les genres. En fait, 12 sont sortis. En fait, t'as les escape books adultes, donc celui-ci, là.
Ouais.
Et t'as aussi les escape books pour les plus jeunes, qui s'adressent plus aux 7, 12 ans. Et il y en a un qui a été écrit par Gauthier, qui m'a envoyé un tout dernier, Icar, le labyrinthe d'Icar. Et là, c'est pour montrer aussi. En fait, au travers des escabouques, si tu veux. Au début, t'as des livres qui sont adressés à des jeunes ados dans les années 80, donc tous les bouquins qui sont sortis chez Gallimard. Et maintenant, on a des livres vraiment qui sont vraiment adressés qu'aux adultes, parce que le tout dernier escabouque, c'est La Nuit du Vaudou, enfin un titre comme ça, et c'est un livre gore, un livre jeu gore. Qui s'adresse
qui
aux 16 ans et plus.
À la demoiselle qui est en face
voilà,
de toi,
là, elle aimerait,
notre spécialiste des films
averti.
D'horreur.
Un public averti. Et en plus, dans les escape books, on a vraiment une grande part laissée aux héroïnes. Donc on peut incarner des femmes, en fait.
Alors parlons-en, ça, on en discutait
ouais.
aussi.
Très bien,
On se demandait si, dans les années 80, donc, quand il y a eu les livres dont vous êtes le héros chez Gallimard, si le public féminin se retrouvait un petit peu dans ces aventures qu'on fait vraiment à la première personne, mais dans lesquelles on incarnait quasiment toujours
un homme.
Un mâle.
Ouais.
Sauf dans cette collection, enfin, comment on pourrait dire, sous-série, je ne sais pas comment tu appelles ça, Les Messagers du Temps,
ouais,
où là, donc, était un livre dont vous êtes le héros fait par des Français, où tu incarnais un héros ou une héroïne. Et tout à l'heure, j'ai regardé à la fin, donc c'est un livre à chapitre où donc, les choix nous envoient vers différents chapitres. Et selon qu'on était soit le prince, soit la princesse, on allait visiter tel ou tel chapitre.
Ouais, donc, c'est ça qui est. Ouais, bah, c'est marrant parce qu'en fait, en fonction des époques, qu'on soit le prince ou la princesse, bah, y a des codes et la princesse bah, voilà, veut être comme le prince, veut être une femme d'action. Donc c'est pas une femme. C'est vraiment, elle fait les mêmes choses que les hommes et du coup il y a des hommes qui la regardent en disant mais c'est pas possible qu'elle fasse ça quoi. C'est pendant le Moyen-Âge, la Révolution aussi que ouais. ça se passe. Et là la femme elle n'aurait pas le même rôle qu'elle elle veut avoir et ça crée des quiproquos. Je trouve ça plus marrant même d'incarner la princesse que le prince.
D'accord. Ouais. Une collection, donc, ouais, chaque tome, en fait, ça, on voyageait dans le temps, en gros, à chaque tome.
Ouais, on doit, en fin de compte, libérer un messager du temps.
Ah oui, dans chaque...
On doit la ramener dans la planète Chronos, je pense, c'est ça. Et on a terrassé un ennemi, voilà, dans différentes époques. Donc, le dernier, c'est Objectif Apocalypse, qui retrace une fin du monde, un peu dans un style James Bondien.
Et contemporaine, hein, si
et
je me rappelle bien.
Ouais. Ouais.
Et donc, c'était James Campbell, soi-disant, qui écrivait ça, mais il y a une rumeur comme quoi ce serait le traducteur d'Harry Potter, en fait, hein, le premier traducteur français qui aurait écrit ses livres à l'époque. À vérifier, mais par exemple, si on veut vraiment vérifier, on peut aller, je crois, sur la Taverne des Aventuriers, parce que c'est aussi là qu'on...
Oui, il y a énormément d'indications, de sources...
Voilà. Il y a des recherches de fait aussi sur notamment ces auteurs qui des fois sont peut-être des Français qui écrivaient des livres sous pseudo parce que bon, je sais pas, c'était peut-être plus vendeur d'avoir un nom américain sur la couverture. Une autre spécificité peut-être sur la Taverne des Aventuriers, c'est un peu les fanfictions, non ? C'est aussi ceux qui écrivent.
Oui, bah, à un moment donné, j'ai fait partie du jury des mini AVH. C'était des mini fanfictions où il fallait pas faire plus de 50 paragraphes. Donc c'était aussi un défi, hein, parce que t'as très peu de choix en fait. Et effectivement, et j'ai même été surpris de voir que les fanfictions amateurs des fois étaient même supérieurs aux écrits professionnels, parce que il y a en fait. Sur la taverne, tous ces lecteurs vraiment qui adorent les livres-jeux, eux, ils ont insisté énormément sur la jouabilité. Et du coup, par rapport au livre Gallimard, bah, tu sens la différence. Hein. Tu sens que quand tu joues, il y a la volonté quand même de réussir à te faire gagner. Mmh. Et il y a des auteurs épatants et qui ont même été publiés après dans différentes maisons d'édition.
Ouais, et maintenant, on a des petites maisons d'édition françaises qui publient. Des livres-jeux originaux. Et je vois que j'avais découvert les éditions Megara aussi, il y a quelques années, qui, eux, ressortent des livres dont vous êtes le héros de l'époque, mais dans des versions super luxueuses.
Ouais, version de... Alors, en fait, ça s'est arrêté, Megara, en fait.
Ah bon.
Ça a changé en Brocéliande d'édition.
D'accord.
Parce que bah, le problème de Megara, c'est que, comme tu dis, c'est des très beaux livres, j'en ai quelques-uns. Mais du coup, le coût, apparaît, enfin 35-40 euros le livre, il y en a qui s'y retrouvaient pas trop en fait.
Ouais, mais bon, on voit que ça s'adresse à un public.
Voilà, vraiment qui aime voilà, le
tous les quarantenaires qui ont du pouvoir d'achat, les nostalgiques.
Ouais.
Ok. Et donc, Bess, je t'avais prêté un livre jeu
oui.
avec une héroïne.
Ouais.
Quand même, Buffy.
Ouais. Ouais. La nuit, je suis Buffy Summers, ouais. écrit par Chloé Delhomme, aux éditions R. Je crois ouais. que c'est ça qu'on prononce.
Je pense que c'est assez confidentiel.
Et oui, du coup, j'ai essayé d'y jouer. Et voilà, malheureusement, ça a été une expérience négative pour moi. parce que la jouabilité, elle est intéressante. Je trouve que ça marche plutôt bien. Le pitch au début est pas très lisible. C'est pas très facile de s'y retrouver.
On se réveille dans un hôpital psychiatrique.
On se réveille dans un hôpital psychiatrique.
On sait qu'on est Buffy Summers.
On sait que la nuit on est Buffy.
Et que la nuit.
Enfin, c'est.
On sait pas si on est en train d'imaginer qu'on est Buffy ou.
Et il y a d'autres noms. Enfin, il y a le docteur Loomis par exemple. Il y a l'infirmière Ratched. Enfin, il y a d'autres noms de personnages de fiction qui sont piqués ailleurs. Et bon, du coup, je vais pas tout raconter, mais au début, c'est un peu confus, on va dire. Enfin, moi, je trouvais ça un peu confus, et surtout, j'ai pas du tout accroché au style, vraiment au style littéraire, quoi. J'ai pas, et du coup, ça m'a pas permis de rentrer dedans.
Et Chloé Delhomme, je crois qu'elle vient plutôt de la littérature un petit peu expérimentale et qu'elle a fait ça un peu. C'était un peu un exercice de style pour elle.
Ouais, mais le style, il y en a vraiment, c'est vraiment très marqué, c'est très spécifique.
On y lance des dés quand même
Alors oui, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a des dés qui sont imprimés en bas de page, au hasard, et du coup il suffit de feuilleter le livre, de s'arrêter sur une page et ça te donne le.
Si on n'a pas des dés, quoi. Si on n'a pas les 2D6.
Donc ça c'est marrant, je trouvais ça amusant.
Est-ce qu'il y a quand même une feuille de personnage au début où on note son équipement, ses points, tout ça?
Oui, t'as des points de corps, des points de santé mentale, et puis il faut que tu notes ton équipement.
Des points de santé mentale.
Voilà, bah, ça c'est important quand même.
Ouais.
Mais voilà, enfin pourquoi pas, mais faut aimer son style, je dirais.
Ok, on passe à ta chronique du jour.
Oui.
Allez, c'est parti, générique.
Alors ce soir, pour rester dans le thème, j'aurais pu vous faire une chronique du film Escape Game, par exemple.
Ah ouais, quand même.
Mais je l'ai déjà subi une fois, donc j'ai pas eu envie de le regarder. Mais donc on va faire un tour du côté Netflix avec le film The Babysitter qui a été réalisé par MacG. Quoi, me dites-vous? Un film d'horreur réalisé par MacG? Celui-là même à qui l'on doit les incroyables Charlie's Angels ou encore l'inénarrable Terminator Renaissance? Oui, oui, tout à fait, celui-là même. Mais attention, The Babysitter, c'est une comédie d'horreur. Oh, j'entends vos soupirs de soulagement. MacG qui nous fait de l'horreur, c'est déjà de l'horreur. C'est méta, hein, tout ça, je vous ai perdu. Bon, on arrête de nager. The Babysitter, il est sorti en 2017 sur la plateforme Netflix. Et la suite de The Babysitter vient d'ailleurs de sortir. J'en ai eu certains échos. Donc on y retrouve Samara Weaving dans le rôle titre, mais également Judah Lewis qui joue le petit garçon. Et on est parti pour 85 minutes de drôlerie avec du sang. Wouhou ! Alors dans ce film, on va suivre le petit Cole, 12 ans, qui a une babysitter d'enfer qui s'appelle Bee. Bee, c'est the meuf trop cool, trop blonde, trop sexy, c'est la meuf trop quoi. C'est l'archétype de la girl next door, et c'est fait exprès, puisqu'on est dans une comédie horrifique, je le rappelle. Donc on va dans l'excès pour se moquer. Enfin, je crois. Le petit Cole, il est pas du tout insensible au charme de sa babysitter. Hein. Tiens, on va parler un peu de lui. C'est un petit garçon timide, tout gentil, qui se fait harceler forcément, et qui est l'innocence même. Sa meilleure copine habite au bout de la rue, ses parents sont super cool, il vit dans une grande maison. Bref, c'est trop dur la vie dans les suburbs américains. Et un week-end comme un autre, Cole doit le passer avec Bee, sa babysitter. Papa et maman ayant décidé de se casser en amoureux. Alors tout se passe gentiment jusqu'à ce que le petit garçon se lève pour espionner sa gardienne. Et là, c'est le drame. Bee a invité des amis en cachette et ça joue à action ou vérité. Et oui, et l'action de Bee, c'est d'embrasser tout le monde. Alors les mecs, ils ont un smack, et une des filles du groupe aura une grosse soupe de langue en slow motion. Voilà, voilà. Du bon male gaze avec le classique baiser lesbien hyper intense entre deux femmes hétéros. Mais j'oubliais, c'est vrai, on est dans une comédie là, donc on pousse les stéréotypes à l'excès pour etc., etc. Alors jusque-là, je me faisais un peu chier, je l'avoue, hein, et cette scène a réveillé mon féminisme. Alors après, ça s'emballe un peu. Bah, là, je vous spoil pas trop quand même. Je vous spoil un petit peu, mais pas trop, parce que le pitch du film, c'est un peu l'histoire en entier. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Enfin, voilà quoi. Donc, Bi, elle égorge un des participants. Ah. Car Bi, c'est une adepte du diable et elle a décidé de faire un petit rituel avec ses copains. Donc, évidemment, le petit Cole, qui est censé être endormi par des somnifères, est en pleine forme et il se fait choper minute 5. C'est parti pour un film intense. Comment va-t-il s'en sortir? Il est si jeune et si innocent. Eux, ils sont 5 ou 6, ils sont plus costauds que lui. Il y a même un mec, alors c'est Robbie Amell, donc ça gâche pas le plaisir des yeux, mais c'est quand même qu'il y a un mec qui est torse nu sans raison. Alors tellement sans raison que même Cole, le personnage, le demande. Mais on n'aura jamais la réponse. Mais je suppose que là aussi, c'est pour le gag, comédie horrifique, tout ça, tout ça. Je vous passe le fait que le personnage noir meurt en premier, que Cole, il est tout frêle, mais il est malin, donc il va s'en sortir. Et on se fait bien chier quand même. Alors bon, tout n'est pas de la faute du réalisateur, j'y reviendrai, hein. Côté scénario, c'est bienvenue au royaume du post-it. L'histoire, je viens de vous la raconter. Ne cherchez pas les twists, les révélations incroyables. Ne pensez pas non plus que vous aurez beaucoup de rebondissements. Non, non, c'est plat, comme un étang un matin calme. Hyper linéaire. Cole est poursuivi, il court, trouve refuge, s'en sort et on recommence. Côté horreur, on a vu mieux. Côté comédie aussi. Alors c'est censé être léger avec un peu d'héboglobine. Mais bon, moi j'ai pas rigolé, j'ai été même assez blasée. Alors quand tu fais une comédie d'horreur, s'il te plaît, mets les potards au max. Vas-y à fond, moque-toi vraiment et frontalement des poncifs de l'horreur. Ou alors fais une comédie, une vraie, avec des touches horrifiques. Mais fais quelque chose. Pas ce truc plat comme une limande neurasthénique. Si tu rajoutes à ça Mac G, donc à la réal, alors là on touche le fond. C'est filmé avec le cul, si j'ose dire. Il y a un grave problème de réalisation là, mon gars. Il y a des changements de plans non cohérents, des incrustations de texte dans l'image aussi, foutues au hasard dans le film. Parce que c'est censé faire cool, mais bon, ça marche pas très bien. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, ça m'énerve quand les choses, elles sont pas bien maîtrisées, là. Bref, vous l'aurez compris, The Babysitter est un film qui a reçu de très bonnes critiques. Moi, je piche pas, vraiment. Oui, comme ça, là, on pourrait croire que j'ai détesté. Mais c'est surtout que j'ai trouvé ça bof. Et puis la scène du baiser lesbien, là, ça m'a saoulé, grave, ça m'a sorti du film. En conclusion, je dirais que The Babysitter, bah, c'est naze. Voilà, c'est un mot qui lui va bien, naze. Mais on s'écoute un extrait de la BO quand même, avec Dusty Springfield qui nous chante Spooky.
Pas de sauter la pauvre de style, hein.
Ouais. La chanson est hantée.
Alors du coup, on va discuter avec Benoît pour parler donc d'Hôtel Silencio. Est-ce que tu peux te présenter, Benoît?
Eh bien, je m'appelle Benoît Patrice. Qu'est-ce que dire?
Ça fait longtemps que tu écris?
Oui, ça fait une bonne vingtaine, 20-25 ans que j'écris.
Ah ouais?
Mais ça fait, j'ai juste sorti mon premier roman là. Donc c'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit, mais beaucoup de merde, en fait, hein, on peut dire ce qu'il y a. Et donc voilà. Et voilà aussi pour dire, là, je suis en recherche d'emploi, donc habitant, s'il y a un amateur, je vais en profiter pour faire ma double pub, si okay. Vous me permettez.
Alors, Hôtel Silencio, présente-nous ce premier livre, interactif, oui. À porte et à clé. C'est oui. Comme ça que le présente l'éditeur.
Oui, c'est vrai que c'est un livre interactif. Tout à l'heure, on parlait d'Escape Book, c'est un petit peu un escape book aussi, parce qu'il y a j'ai mis il y a pas mal de, c'est un, comme un roman à clé. Et pour les Arthur Gamer, j'ai laissé des indices pour qu'ils puissent accéder à une chambre cachée au milieu du livre.
Ah, d'accord.
Donc, c'est un peu comme les pistes cachées sur les CD.
Ouais, ok.
Je vais un peu reprendre ça, on voit plus ça.
Ils sont à la fin, mais.
Oui, mais là, c'est caché. Donc voilà. Et pour dire, je me suis beaucoup appuyé sur la quatrième dimension.
Ah oui.
Hein, pour les histoires. C'est quelques anciennes versions, hein, pas les nouvelles, ouais. J'ai pas trop regardé. Et bien sûr, l'univers de David Lynch. Parce que c'est toujours un peu un univers onirique.
Surréaliste.
Oui, surréaliste. Mais je trouve que surtout pour l'onirisme, parce que ça va bien avec un hôtel dans lequel on dort, où on peut vivre des histoires un peu bizarres.
D'accord. Donc en fait, le principe du livre, c'est qu'on visite l'hôtel.
Oui, alors oui, c'est vrai, merci de me rappeler ça. C'est pas évident. Mais en fait, il y a une vingtaine de chapitres. Donc c'est, en fait, le concept, c'est une chambre, une histoire. Donc il y a à peu près une vingtaine de chapitres. Et c'est ce que j'appelais ce livre, j'appelle ça un livre hôtel. Parce qu'en fait, le lecteur est aussi client de l'hôtel. Et il peut en fait se promener dans l'hôtel comme dans le livre, en allant d'une chambre à l'autre grâce à des renvois de fin de chapitre. Donc il s'amuse, il peut se balader, revenir sur ses pas. Et jusqu'à, bien sûr, arriver jusqu'au bout, où là on apprend quelque chose.
Voilà, ok. Et donc on est plus, par rapport au livre-jeu interactif, on est plus spectateur qu'acteur en fait. On visite des endroits et souvent on voit une histoire qui s'est déroulée à cet endroit.
Là-dessus je peux rien dévoiler parce que c'est pas si simple. comme la vie d'ailleurs, comme la réalité. Donc il faut aller au bout pour savoir que faut se méfier des apparences.
Ok. Et tu as travaillé avec un photographe aussi
Bruno Tofano, oui. Je lui donnais pas mal d'indications pour qu'il fasse. On peut voir. Les photos sont assez belles. Hein, il a voulu faire un peu travailler beaucoup sur les noirs profonds et les blancs pour un peu retranscrire l'univers du silencio. J'appelle le silencio pour les initiés, on dit le silencio.
Et une ambiance d'ailleurs plutôt film noir quand même.
Oui, moi j'aime beaucoup les vieux films d'horreur des années 50, le film de la Hammer, la quatrième dimension.
Voir les vieux polars peut-être aussi.
Un petit peu, oui, c'est vrai, les ambiances polars aussi. Je fais un petit hommage à Veronica Lake, qui est une actrice c'est un peu oubliée, mais qui jouait un peu aussi la clé de verre dans tous les films La Femme est une sorcière. Donc c'est un peu j'adore cette ambiance un peu surannée des films et des séries en noir et blanc.
Et il y a beaucoup de références littéraires, il y a pas mal de citations.
Ouais, c'est ultra référencé, autant en littéraire qu'en pop culture, qu'en film, qu'en peinture, qu'en musique. Je me suis beaucoup amusé, j'adore ça.
Ok. Et alors comment tu as trouvé cet éditeur, les éditions de la Bajour, hein?
Alors les éditions de la Bajour, je collabore avec eux depuis pas mal d'années maintenant. D'accord. Je crois que c'est depuis presque 10 ans.
Ah oui.
Donc j'ai édité pas mal de nouvelles en ligne. Et ils ont aussi une revue qui s'appelle L'Ampoule. Donc ce qui est raccord avec la Bajour quand on y réfléchit.
Ouais.
Et donc c'est pour L'Ampoule d'ailleurs que j'avais commencé à écrire une nouvelle. Je pensais écrire une nouvelle sur un homme qui se réveillait dans une chambre d'hôtel, qui se souvenait plus de ce qu'il faisait ici. Le postulat était assez nul, en fait. Donc j'ai entièrement changé cette histoire. Et je voulais faire une nouvelle, justement, en petite nouvelle, donc vous êtes le héros, avec une vingtaine de petits chapitres. Mais en fait, rien ne marchait. Donc j'ai tout changé. Et j'en ai tiré une nouvelle qui m'a beaucoup plu et que j'ai nommée Hôtel Silencio. Et une fois que je l'ai eu écrite, je me suis dit, mais cet hôtel m'attire. Et j'ai commencé le roman. Et j'ai proposé ça à mon éditeur, enfin, Joannick. Et il m'a dit banco. Et ensuite, c'est lui qui m'a dit que ce serait bien d'adapter ça en livre dont vous êtes le héros. Donc, à croire que je pense que c'était déjà la formule livre dont vous êtes le héros et dans l'ADN, je pense, déjà de l'Hôtel Silencio.
Du coup, tu as fait un double travail, puisque tu l'as d'abord écrit en roman, et après tu l'as transformé en fait en livre dont vous êtes le héros.
J'ai écrit beaucoup, beaucoup de chapitres. La moitié ont été aimablement refusés par mon éditeur. Quand on n'est pas un génie, on fait ce qu'on peut. Et donc, c'était assez compliqué, parce que le livre, en fait, on peut le lire autant en suivant les renvois de fin de chapitre, mais je l'ai aussi composé de manière à ce qu'on puisse le lire de la première page à la dernière. Tout en ce qui est. Bon, il va y avoir quelques petits anachronismes, mais on peut prendre
c'est
plaisir
pas gênant, ouais.
À prendre les, à faire les deux versions.
Mmh. Et t'as aussi un site qui complète un peu le livre.
Oui, enfin, j'ai fait un site, enfin, je sais pas, alors, je suis, tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, j'ai beaucoup de mal à le faire, donc c'est vraiment le strict minimum, mais on peut y aller quand même pour voir, bah, genre, pour trouver mon nom, et pour trouver les éditions de la Bajour, si toutefois ce livre intéresse quelqu'un.
Ah, je pensais qu'on y trouvait un peu de contenu interactif, additionnel, des photos, des vidéos qui si, permettaient un peu de
oui, alors ça, c'est,
d'étendre
oui,
non, l'univers.
Ça, non, c'est une, j'ai créé une chaîne YouTube.
Ah, oui.
Avec mon nom, avec ouais. Je me suis mis à faire des petits trailers en fait d'une dizaine de chapitres. Bon, j'ai fait ça avec les moyens du bord, avec PowerPoint, en faisant de la musique et en mettant des gifs. Mais okay. Toujours pour mettre un peu un univers un peu bizarre. Donc c'est pareil si ça intéresse des gens.
Mmh. À un moment, le personnage principal va dans une bibliothèque et on y trouve. Tu cites, je sais plus, Edogawa Rampo.
Oui.
Peut-être Charles Bukowski.
Je sais pas si j'ai dit ça. Mais ça m'étonnerait pas de moi.
Ouais, voilà. Est-ce que ce sont tes influences là que t'as voulu
Oui, mais
Edgar Poe.
Edgar Allan Poe, justement, parce qu'en fait, c'est le nom japonais de Edgar Allan Poe.
Ouais, ouais, mais c'est aussi un écrivain japonais.
Et voilà, c'est un écrivain qui a pris le même nom en consonance japonaise. Donc je me suis amusé à mettre beaucoup de choses, des clins d'œil qu'on peut comprendre, qu'on ne peut pas comprendre. Mais j'aime bien même quand on ne comprend pas les choses tout de suite, mais que ça reste un peu en nous, dans le lecteur.
D'accord. Ok. Bon. Alors, on le trouve où, ce livre ?
Alors, on le trouve exclusivement aux éditions de l'Abajour, hein, pour Angers.
Donc, sur leur site internet.
Qui distribue. Ouais. Sinon, mais après, alors, sinon, il doit y avoir, bon, il doit y avoir à Bordeaux, dans les librairies bordelaises.
Parce que c'est un éditeur bordelais.
Mais oui, là, c'est un éditeur bordelais. Donc, en fait, on le trouve que sur les. Pour les Angevins, ils le trouveront qu'en allant sur l'Abajour.
Ok.
Aux éditions de l'Abajour.
D'accord. Et alors, est-ce que tu as un autre projet, là?
Oui, c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal à parler, parce que ce roman-là, j'ai dû le finir il y a 2 ans.
Ouais.
Donc, ça fait un peu bizarre. C'est un peu comme certains acteurs qui viennent vendre leur film.
Ouais.
Leur
ouais.
Donc, là, oui, je suis sur un projet qui va rester un peu toujours dans le fantastique. La tendance, peut-être un petit peu aussi. Un peu la.
Nurse.
Rachel.
Non.
Babysitter.
La série dont tu voulais parler.
Warrior
Nun. Oui, Warrior Nun,
voilà. Ah, d'accord.
Un peu, voilà, un petit côté un peu bizarre.
Mmh. Un peu plus décomplexé, peut-être.
Mmh. Oui, non, enfin, je dirais, en fait, comme disait Bukowski, je préfère ne pas parler trop de mes projets parce que ça dégonfle les pneus.
D'accord. Bon, ben alors, on va clore cette interview avec un de tes deux choix musicaux. C'est un morceau des Black Angels.
Oui.
Et Will Things, qui est cité dans le livre, non?
Oui, c'est pour ça que je voulais mettre. J'aime bien les Black Angels, je les connais pas plus que ça, mais il y a des sons qui sont vraiment, vraiment super. Et puis bon, le rock psychédélique, c'est. J'ai découvert ça grâce à Angers, on en parlait tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai, c'est eux qui avaient inventé l'Austin Psych Fest, oui, à la base, qui est devenu Lévitation maintenant.
Donc, quand j'ai vu ça, j'ai découvert ça, je trouvais ça.
T'écris en musique d'ailleurs
Oui, j'écris parfois en écoutant Radio G.
Ah bah c'est sympa.
Et sinon j'écris aussi en écoutant Soma FM, qui est une très bonne radio basée à San Francisco.
D'accord. Il s'appelle Soma FM.
Soma FM.
Ah d'accord. Ah oui, du Soma pour le peuple. Ah ouais.
Ouais, voilà. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais.
D'accord. Ok.
Le meilleur des mondes possible pour ceux qui n'auraient pas compris.
Ok. Bon ben merci. On s'écoute donc merci les Black Angels sur le 100.5. Bon, ok.
C'est l'émission qui est hantée.
Ouais. Donc on se demandait si on allait faire du Black Angels a cappella. Pas simple. Allez, il y avait Jean-Hugues qui nous a enregistré une chronique. Donc on va s'écouter ça. J'espère que ça a bien passé. Warrior Nuns.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Chers amis auditeurs, bonjour. Figurez-vous que nous sommes confinés. Si, si. Et donc, j'en ai profité pour lire plein de livres et voir plein de séries. Et c'est de la saison 1 de Warrior Nuns que je vais décortiquer devant vous ce soir. Il faut savoir que Warrior Nuns aura sa saison 2. Alors, Warrior Nuns, ça veut dire les bonnes sœurs guerrières. Alors, pourquoi j'ai regardé ça? En fait, j'ai été fan dans une autre vie d'un jeu de rôle très drôle, Macho Woman with Guns, où il était possible d'interpréter une jeune femme qui tentait de résoudre des soucis avec des extraterrestres agressifs, des lapins à la Monty Python et autres Cthulhu. Et tout ceci à l'aide d'une Gatling portée à la hanche, genre Predator. Bon, et c'est vrai qu'au bout de deux parties, on avait un peu fait le tour. Genre Toonsien, par exemple, où on en a interprété des Toons. À la Roger Rabbit, vous savez, mais avant Roger Rabbit. Alors c'était un jeu de rôle de fin de soirée après une partie de l'appel de Cthulhu où on avait trouvé malin d'invoquer un truc qui avait bouffé toute l'équipe, ou à Donjons et Dragons où on avait voulu faire le malin avec un dragon rouge très ancien, très énervé parce qu'on avait buté son petit qu'on avait pourtant déjà trouvé assez grand. Revenons à nos Macho Women with Guns. Il y a une extension à ce jeu d'anthologie de série B, Ninja Nuns on Wheel, soit dans la langue de Maître Gims, les sœurs ninja sur moto, où l'on joue effectivement des bonnes sœurs un peu speedées, montées sur des Harley Davidson et avec des compétences de ninja, voyez le genre. Inutile de dire que l'aspect christique du jeu était un petit peu du flavor text, mais les deux parties que nous avons faites m'avaient vraiment laissé un bon souvenir. Il faut dire que la descente dans un bar de Hell Angel sudiste avait été fab. Bref. Du coup, avec Warrior Nuns, le titre m'a fait l'effet d'une Madeleine de Proust, avec une odeur de napalm. Au bout de quelques dizaines de minutes, je me suis fait « Tiens, c'est marrant, c'est une série espagnole ». Pas du tout. C'est une américaine, mais qui se passe essentiellement en Andalousie. Bon, je vous la pitch. Ava Silva, qui semble être l'héroïne du truc, a eu un accident de voiture quelques années auparavant, et sa mère est morte. Et elle n'avait déjà plus de papa. Autant dire qu'elle n'est pas soigneuse. Et paf, elle est devenue paraplégique et stationnée depuis dans un lit d'un orphelinat catholique gay comme la tombe de Dracula et gardée de main maîtresse par une bonne sœur presque aussi sympathique qu'un combattant djihadiste dont tu as planqué la Kalachnikov dans un bidon de Saint-Doux. Alva, 19 ans, il va lui falloir quitter l'orphelinat pour on se demande bien où et bien comment. Heureusement, elle meurt mystérieusement. Non mais reviens, c'est passager. Son corps est conservé dans une morgue d'église, ce qui doit sûrement être une spécialité espagnole, genre chorizo ou paella. Et à ce moment arrive, poursuivi par des méchants avec des armes automatiques, des sœurs guerrières de l'ordre de l'épée cruciforme. Je vous le refais ? Oui. Bon. Des sœurs guerrières de l'ordre de l'épée cruciforme. C'est vrai que ça fait un petit peu peur. S'ensuit un combat où l'une d'entre elles utilise une sorte de super pouvoir. On ne sait pas trop bien comment ça s'est passé. Bon, ça ne va pas l'empêcher de se faire bêtement oxyre peu de temps après. Mais avant de trépasser définitivement, elle fait un truc bizarre. Elle est coincée dans la pièce où se trouve le corps d'Alva, et elle se sort du sien, de corps, une sorte d'auréole qu'elle fourre dans le corps d'Alva. Et là, pour le coup, elle meurt pour de bon. Mais Alva ressuscite, et va accidentellement aider les sœurs guerrières de l'ordre de l'épée cruciforme. Et elle n'est plus paraplégique, dis donc. C'est l'air d'être pas mal, cette auréole, hein. Bon, tout ce beau monde se retrouve dans une sorte de couvent ou église où elle va être accueillie par un prêtre trop sympa, trop beau, mais beaucoup trop vieux. Enfin, pour Alva, tout du moins. Et qui tente de lui expliquer ce qu'est le halo. Le halo, c'est le nom de l'auréole. Le pouvoir qu'engendre cet objet. Et il faut sauver le monde des démons, enfin bon, le pitch habituel. La petite, on voit bien, elle s'enquiquine profond et elle se sauve dès que le vieux beau tourne la tête. Là, Alva, elle est trop contente. Elle court, elle saute, elle fait la conne, quoi. Et en plus, elle tombe sur un jeune beau. Beau comme un Marseillais. Et presque aussi malin, en plus. Comment je connais les Marseillais ? On en parlera une autre fois, si vous voulez bien. Donc, plusieurs groupes dans la série, plus ou moins en opposition. D'un côté, le prêtre vieux beau qui veut sauver le monde. Le méchant cardinal, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui veut, lui, le halo pour on sait pas bien quoi, mais c'est quand même très louche. Et qui, lui aussi, est venu avec son commando de jeunes sœurs. Mais plus son fusil d'assaut que technique ninja. et coincé entre les deux groupes, la mère supérieure du couvent. Et enfin, il y a aussi la bande de jeunes et beaux délinquants que fréquente Alva. Des démons, des sœurs combattantes, tout ça paraît bien alléchant avec son lot de traîtrises en tout genre, de réconciliation entre sœurs, et il y a dedans une jeune noire avec un shotgun qui est mon personnage préféré. Bon, Alva ne se décidera malheureusement qu'au bout de la première saison à prendre sa responsabilité au sérieux, et c'est long la saison. Il y en a pour 10 épisodes. Et même si voir se battre tels des commandos d'élite de la Légion étrangère, de jeunes et jolies bonnes sœurs, c'est un côté imminemment sympathique, eh ben c'est quand même 10 épisodes. Bon, en même temps, j'ai l'air de m'être ennuyé, mais j'ai tout vu. Jacques Pinbois, le barman émérite d'Imaginaire, a trouvé ça très sympa. Bon, en même temps, il est à la retraite, le vénard, et il ne doit pas avoir toujours grand-chose à faire. Ce qui me fera conclure de plus qu'il n'a pas les goûts de chiottes d'Arnaud Cuidet, dont j'évite habilement tous les conseils sur le choix des séries et des films, mais quand même. Vous pouvez y aller donc, en sachant que parfois, vos nerfs vont être mis à rude épreuve.
Écoute Otto Boiselot dans l'imaginaire sur le 101.5. Lui, ça, il passe bien son MP3.
Il a de la chance.
Extrait d'une cassette. On entend le bruit de la cassette d'ailleurs. Ouais. C'est sorti chez Heimat Der Katastrophe, label que j'adore, que je passe assez souvent dans cette émission, qui font des BO de plein de trucs en fait. Ils font des BO de petits scénarios de jeux de rôle. Des fois, ils font carrément, c'est un scénar la cassette en fait, avec un donjon, et puis il y a des pistes à écouter à tel moment, genre quand on rencontre les gobelins, un truc comme ça. Et là, cet album The Nightland, c'était un roman de, comment ça s'appelle, William Hope Hodgson, quelque chose comme ça, hein, genre, auteur fantastique américain, vraiment début du 20e. The Nightland, Lovecraft par exemple a adoré ce roman, quoi. Donc ça date. Et finalement, ils en ont fait une cassette. Il y a un jeu à l'intérieur, ça s'appelle The Nightland, qui est un genre de jeu de loi. Tu peux déplier et tout, et tu joues dessus avec des petits pions. Un jeu de loi un peu style médiéval fantastique. Et la couverture, en fait, je te passais cette cassette, parce que la couverture, c'est un dessin de Gary Chalk.
Oui, bah, celui qui a illustré les tout premiers Le Solitaire.
Et ouais, ouais. Et, qui bossait pas mal pour les Games Workshop. Et ouais, qui est connu dans les livres dont vous êtes, enfin dans le monde des livres dont vous êtes le héros, et pour toute la série du Loup Solitaire. En fait, ils ont récupéré ce dessin parce qu'ils sont liés avec Dungeoneer, qui est un éditeur italien qui fait du Donjons et Dragons solo, quoi. Donc on est assez proche en fait du livre dont vous êtes le héros. Et il y avait un module pour Dungeoneer avec ce dessin de Gary Cho, quoi, qu'ils ont repris pour cette pochette. Qu'est-ce qu'on était en train de raconter? On parlait un petit peu du présent du livre interactif. Il y a quand même le livre numérique, quoi. Donc avec pas mal d'applis qui ressortent. Enfin, on peut acheter en fait des rééditions des livres dont vous êtes le héros, enfin de certains titres des années 80 qu'on joue sur tablette ou sur téléphone en cliquant. Alors, je sais pas comment on joue les phases de lancer de dés, par exemple.
Je pourrais pas te dire aussi. j'ai pas testé les applis. Je sais qu'on en parle sur la taverne.
Par contre, c'est assez pratique. Bon, bah, y a qu'à cliquer en fait.
Ouais, y a qu'à cliquer. Puis ça évite des trucs. Ouais.
Et toi, Benoît, donc Hotel Silencio, il y a aussi une version numérique.
Oui, sur laquelle d'ailleurs on peut cliquer. Alors,
voilà, c'est ça.
Par chance, il n'y a pas besoin de dés.
Parce qu'autant naviguer en fait dans un livre, aller du chapitre 32 à la page 57 et tout. Bon, maintenant on a l'habitude, hein, si on a fait beaucoup de livres dont vous êtes le héros quand on était gamin. Par contre, naviguer dans un PDF, c'est bien d'avoir des raccourcis parce que quand t'es obligé de défiler jusqu'à la page 132 et tout.
C'est l'enfer.
Voilà, et on va passer un petit peu à l'agenda avant de terminer l'édition, parce que on parle de jeux, ben il y a les deux jours en jeu qui se déroulent ce week-end à Angers. Donc vendredi soir, une soirée prototype à la médiathèque Toussaint. Et puis donc où vous êtes, vous pouvez. Alors le nombre de places est limité quand même. Je ne sais pas s'il faut s'inscrire. Et le public testera des jeux et puis votera à l'issue de la soirée pour des jeux donc non distribués encore. Et puis samedi, des barnums sur la place du ralliement où on pourra tester pas mal de jeux qui seront mis à disposition par les assos ludiques Angevines. Et j'ai vu que parmi les partenaires de l'événement, il y avait les Nantais de Cosmodoc qu'on aime bien à Imaginaire. Et le week-end du 17-18, donc on aura l'Angers Geek Fest, dont vous avez sûrement entendu parler.
Peut-être.
Et on aura, nous, Imaginaire, un stand. Alors on va retrouver, on sera dans le pôle littérature, d'ailleurs, par exemple, avec les copains d'Inceptio Edition. Et on aura aussi, par exemple, les copains d'Entropie Zéro qui vont faire un concert. Donc ça va être bien tout ça. Et on vous fera gagner un pass pour le festival dans notre prochaine émission. Donc retrouvez-nous bien à l'antenne du 101.5 dans 15 jours. Et le week-end d'après, le samedi 24, ce sera le Salon Imaginaire.
Meilleur.
De 10h à 19h, gratos, au salon qui annonce qui, des dédicaces toute la journée, comme d'habitude, d'écrivains, d'illustrateurs aussi, des gens de la bande dessinée. Et d'ailleurs, on retrouvera aussi, si je ne m'abuse, Guillaume Albin, là-bas, je crois qu'il vient, qui est le dessinateur du Donjon de Neulbeuk, et qui viendra faire la promo de son deuxième livre jeu dans la série de la geste de Gurdil. Je ne sais pas si tu connais ça, Lobac.
Oui, ça avait été parlé sur la taverne de son premier livre.
C'est bien possible qu'il sort chez Le Grimoire, et donc
oui,
c'est vraiment
Le
dans...
Grimoire, oui. Il en a parlé sur la taverne.
La geste de Gurdil, déjà, c'est une chanson, ça doit être le plus gros tube du Naheul Band. Et donc là, les histoires de Gurdil, le nain, avec des règles. Qui sont assez proches, paraît-il, du jeu de rôle, le donjon Naheulbeuk, qui lui-même s'inspirait de L'Œil Noir. Et on retourne au livre dont vous êtes le héros, d'ailleurs, parce que L'Œil Noir, qui était un jeu de rôle allemand, avait été édité en France, chez Gallimard, en fait, sous forme de livre, en fait.
Sous forme
de
gros coffret livre. Qui ressemblait au livre, aussi. À l'époque, je me souviens.
Il y a un coffret, mais je crois qu'on pouvait trouver aussi, genre, le livre de règles.
Le livre de règles, des aventures. En fait, il y a eu les livres avec des scénarios pour les jouer à plusieurs, et aussi des livres solo, L'Œil Noir, pour jouer seul, en fait. Et en fonction des livres solo, il y avait un niveau aussi à avoir. Donc c'était bien aussi de lire le livre des règles, le livre des aventures, parce que c'était pas adressé à tous les personnages qui ont, par exemple, de niveau 1, non, il faut être de niveau 4. Donc en même temps, ça rappelle un peu les campagnes. Il faut acquérir de l'expérience, et dans ce cas-là, on est plus armé pour réussir le livre.
Ouais, et puis il y avait, c'est vrai que ce côté un petit peu plus j'avance, plus je deviens balèze, plus j'ai envie d'avancer, qui est un peu typique du jeu vidéo, peut-être aussi on le retrouvait, c'est vrai, dans les livres dont vous êtes le héros, quand on avait des séries où à chaque fois on chopait un truc, genre une épée super balèze, ou alors à chaque tome suivant, on avait le droit de choisir une spécialité en plus, comme celui par exemple où on incarnait un ninja que j'adorais, je sais plus, la voix du tigre. sais pas si t'as fait ça, Benoît.
Ouais, c'était
hein. Vachement bien.
C'était ouais, vraiment bien. Ouais.
Avec plein de prises de combat. Ouais, c'était assez. Assez bien foutu. On va terminer l'émission avec le dernier choix musical de l'Aubac. Et j'aurais pas le temps de vous parler d'Escape the Dark Castle. Pas plus que dans notre dernière émission. Donc,
jeu de société.
Je pense que voilà, j'aurais récupéré Escape the Dark Sector, qui est un peu la suite, mais en version SF. Jeu de société anglais où on a des personnages avec trois compétences et en fait, on tire des cartes. C'est très narratif et puis on a des choix en fait en fonction de ce qu'on voit sur les choix et puis on perd beaucoup de points de vie et puis on a son petit crayon, sa petite feuille et on gomme ses points de vie qui descendent beaucoup au fur et à mesure et donc avec des graphismes en noir.